l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Le jeudi, c'est écologie et parfois agriculture. En tout cas, on sait que les deux sont compatibles depuis qu'on réalise des émissions avec le CIVAM du Finistère. Aujourd'hui, justement, on va s'intéresser à cette agriculture qui ménage la planète, qui limite par exemple ses émissions de gaz à effet de serre et qui s'arrange même pour capter du carbone. Alors certes, il s'agit de nourrir les humains, mais sans détruire par ailleurs les conditions de vie, sans épuiser les ressources, sans condamner l'avenir. On sait que les agricultrices et les agriculteurs et autres membres du réseau CIVAM se soucient de ces questions. Avec nous pour représenter le CIVAM aujourd'hui, c'est Laura Lagache qui est salariée et qui s'occupe particulièrement de recherche et développement. Bonjour Laura.
Bonjour.
Et puis, il y a justement un des administrateurs que nous avons reçu à propos du temps de travail en agriculture qui est avec nous au téléphone depuis Kerlaz, c'est Gilles Jacob. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer justement avec vous. Vous êtes donc paysan en polyculture élevage et c'est justement ce qui nous intéresse, c'est cette mixité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous fonctionnez, comment, enfin, progressivement aussi, comment vous êtes installé petit à petit peut-être?
Oui. On est installé en couple depuis 7 ans et on a, comme on est en polyculture élevage, on a plusieurs ateliers. Donc on a 4 hectares de plantés de pommes poires prunes en verger. On a une trentaine de brebis viande qui pâturent ces hectares de verger. Et on a entre 3 et 6 hectares de céréales par an selon nos besoins et les besoins des fermes qui traînent du céréales chez nous. On a 2 poulaillers mobiles de pondeuse et une maison qu'on loue où on vit en même temps en colocation avec des gens. Donc on leur loue des chambres.
Ah oui, et sur l'exploitation, vous êtes deux, enfin vous dégagez 2 revenus, c'est ça? Enfin, ou est-ce que vous avez des salariés en plus ou
Non, on est juste 2 et on est deux, tous les deux, juste voilà.
Et donc vous arrivez à en vivre tous les deux?
Oui, on arrive à en vivre tous les deux, oui.
Et quelle surface vous avez?
On a 20 hectares.
Je ne m'en rends pas trop compte, c'est pas énorme.
Ça reste des surfaces de petites fermes familiales.
Très bien. Et vous, vous veniez de l'agriculture tous les deux ou pas spécialement?
Ma compagne était en tout ce qui était comme la Confédération Paysanne, mais en Belgique. Et moi, j'étais animateur de potager collectif. Donc déjà dans tout ce qui était agriculture, mais plutôt urbaine.
Et quand vous avez décidé de passer à la production, vous aviez déjà ce projet de mixité des activités, c'est ça?
Oui. Oui, ça a toujours été tout ce qui était agroforesterie principalement, donc faire du pâturage avec les animaux et les arbres pour que les animaux aident l'implantation des arbres et leur bon fonctionnement. Quoi.
Et quand vous êtes installé, vous avez commencé par planter les arbres. Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire le déroulé logique, justement, dans quel ordre vous avez développé vos productions?
Du coup, on a démarré sur 2 hectares et on a directement fait appel à Brace Bocage pour faire l'implantation des bocages parce qu'il n'y avait plus rien. C'était des champs de maïs et blé et colza depuis les années 60, de temps en temps des prairies. Et donc, nous, on a réimplanté des prairies et des bocages. Ensuite, on a récupéré dans les 2 ou 3 années après, on a récupéré 11 hectares plus d'autres hectares de voisins. Et donc là, on a commencé à faire des céréales. Donc on a implanté des silos à grains. On a commencé à être autonome sur notre paille, sur notre céréale pour nos poules. Comme on avait la possibilité de vendre du céréale à des voisins aussi, ben on a fait ça en plus, qui sont aussi sur des petits ateliers de poules comme nous. Après, on a de plus en plus greffé des fruitiers pour planter des vergers. Donc, en prairie, donc c'est des vergers qui sont écartés de 10 mètres par 10 mètres. Donc, c'est des pré-vergers pour que les brebis puissent pâturer en dessous. On a démarré avec 5 brebis et puis on les a multipliés. Là, on a une trentaine de brebis mères. Et donc, cette année, on a une trentaine, quarantaine d'agneaux. Et donc, au fur et à mesure, on augmente pour arriver à un cheptel qui pourra pâturer l'entièreté des vergers en permanence. Quoi.
Et
ça sera 80 brebis maximum.
Et vous n'avez peut-être pas terminé, vous avez d'autres projets, d'autres productions à la limite que vous voudriez tenter?
Il y a tout ce qui est maraîchage où on augmente petit à petit. Là, on a une serre et on fait principalement de la culture extérieure à la serre. Et peut-être qu'on va en mettre une deuxième à terme. Voilà, pour ça, on est déjà pas mal parce que l'entretien des vergers, au fur et à mesure que ça pousse, il va avoir de plus en plus de taille et de plus en plus de production à devoir aussi vendre et tout ça. On fait toutes nos ventes au marché en direct aussi, à la ville juste à côté, le samedi matin.
C'est quoi, Douarnenez, en fait?
Oui, à Douarnenez, le samedi matin.
Ah ouais, donc vous n'avez pas besoin de multiplier les circuits de distribution.
Non.
Et vous ne faites pas de
pour le
vente à la
moment pas,
ferme.
mais peut-être qu'une fois qu'on aura de plus en plus de pommes et de prunes, peut-être que ça suffira plus le marché, qu'on devra faire plusieurs marchés par semaine, ça c'est possible. Ou alors trouver des débauches dans certains circuits courts, magasins de producteurs ou autres. Voilà.
Et vous ne transformez pas?
On fait la transfo en jus. Tous les fruits qui sont pas croquables directement, on les transforme en jus, ouais. Ou en compote nous-mêmes pour nous. Et le jus, on le vend aussi. Ouais.
Et alors, vous n'êtes que deux pour faire tout ça. Enfin, ça paraît. C'est vrai que a priori, quand on connaît pas, on se dit mais enfin, ça doit faire un boulot énorme. Enfin, comment est-ce que vous organisez pour réussir justement à tout assurer
Du coup, là-dedans, on a pris. Ça, c'est au fur et à mesure. On a fait en sorte de pouvoir faire que ça soit une échelle recevable pour deux personnes. C'est-à-dire qu'on n'augmentera pas plus certains ateliers. Donc là, on a deux poulaillers de poules pondeuses, on a nos moutons, on les bouge tout et en pâturage tournant. Et donc, on fait en sorte que tout puisse se passer de 9h le matin à 17h au soir, du lundi au vendredi, et le samedi matin, le marché, un week-end sur deux, pour l'un comme pour l'autre, comme ça on a chacun nos week-ends, un week-end sur deux.
Ah oui, vous arrivez même à prendre vos week-ends.
Ouais.
Et à gagner suffisamment d'argent quand même, parce que, voilà, c'est ça aussi, après...
La location de chambre, donc avant on faisait gîte l'été, et là on a loué la maison à des colocataires à l'année, et donc du coup ça nous permet aussi d'avoir un revenu sur la ferme qui nous permet aussi de pouvoir être allégé là-dedans, quoi. Il faut savoir aussi que nous, on avait un apport de base sur la ferme qui nous a permis d'acheter cette ferme. Que je ne pense pas qu'on puisse se prendre un emprunt si gros dès le départ. Et je pense aussi qu'il y a 7 ans, les prix n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant, malheureusement. Il y a eu une énorme augmentation des prix des fermes qui est plus abordable pour l'installation maintenant, quoi.
Ouais, là, vous parlez juste du prix du foncier, c'est ça? Enfin, de la terre et puis des bâtiments.
Il y a un gros frein à l'installation de paysans pour le moment.
Parce que sinon, en termes de prix, pour parler des prix, de prix plus, encore plus volatiles, c'est-à-dire les matières premières, les intrants, entre guillemets, que vous pourriez utiliser, est-ce que déjà, il vous reste des intrants? Est-ce que vous achetez quelques matières premières?
Nous, à part de temps en temps des céréales pour faire le semis d'engrais vert entre nos cultures de céréales, sinon la plupart du temps c'est nos céréales qu'on ressème.
Quel genre de céréales, oui?
Nous on fait des mélanges céréaliers de blé, avoine, pois, fèves, où là on essaye de faire des légumineuses plus petites pour que les poules puissent les ingérer directement et qu'on ne doive plus les broyer, donc soit moins dépendant de la machine. Donc on va passer à la lentille, je pense, avec du triticale et avoine trèfle. Voilà.
Le triticale, c'est un genre de blé, c'est ça? De froment?
C'est un blé, ouais. Mm-hmm. c'est une variété de blé. Ouais.
Donc ça, c'est plutôt pour les poules, parce que sinon, les moutons se nourrissent directement à l'herbe, c'est ça uniquement?
Ouais. La plupart, tout ce qui peut être à l'herbe, on met à l'herbe.
Et donc, vous êtes en bio, je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous êtes en bio?
Oui, on est en bio, ouais.
Donc pas de produits phytosanitaires, enfin pas d'achat de produits phytosanitaires?
Non. Et en termes de les vergers, nous, vu qu'on est en polyculture élevage, on fait aucun intrant, aucun produit, quoi que ce soit, parce que malheureusement, c'est pas une super année pour les pommes, du coup, c'est pas très grave. On a toujours le maraîchage, on a la location de la maison, on a les céréales, on a les brebis, on a les poules. Et donc, s'il y a un des ateliers qui rapporte moins une année, les autres l'équilibrent.
Mmh, c'est ça.
On ne veut pas traiter.
Et donc là, vous êtes... En bio, il paraît que les prix de la bio sont plus si intéressants que ça, parce qu'en fait, il y a moins de consommation de bio, ou il y a surproduction peut-être de produits bio. Est-ce que ça, vous le ressentez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Ben, moi, j'ai ma clientèle qui est en quelque sorte faite aussi sur le marché, qui nous connaît et avec qui on a un échange directement du producteur à l'acheteur. Donc, du coup, on a ce lien qui est fait et nous, tous les samedis, on vend nos produits. On a eu un peu plus de mal pendant le confinement et après le confinement, où je pense qu'il y a de plus en plus de magasins bio qui démarrent dans tous les coins, qu'il y a de plus en plus d'échelles bio qui se créent dans les grandes surfaces. Qui ressemblent à des magasins bio, mais qui sont quand même des circuits beaucoup plus longs, des plus grosses échelles derrière aussi, et où en fait on n'a pas vraiment de regard derrière sur le produit, et c'est le même label que nous. Mais c'est pas la même qualité de produit, je pense.
Mm-hmm. Donc pour l'instant, ce qui vous sauve, en tout cas, c'est le circuit court, quoi.
Ce qui me sauve, c'est de pouvoir échanger avec mes acheteurs, oui. Mm-hmm. De pouvoir parler de mes produits, et s'ils ont envie de venir à la ferme, c'est possible aussi qu'ils comprennent vraiment ce qu'on fait, quoi.
Ils n'ont pas réagi spécialement. Enfin, vous avez peut-être pas augmenté vos prix d'ailleurs, mais bon.
On a dû augmenter les prix sur les œufs juste avant le confinement.
Et vous êtes vous semblez très autonome. Votre ferme semble très autonome. Est-ce qu'il y a quand même des synergies avec d'autres? Enfin, je sais pas. Est-ce que par exemple pour le même matériel agricole, vous faites appel à des entreprises de travaux agricoles ou est-ce que?
Oui. Donc du coup, pour nous soulager dans le temps de travail, on fait appel à des ETA pour tout ce qui est la mise en place des céréales. Parce que sont-ils de tracteurs plus performants avec des outils qui travaillent moins profond le sol. Et nous, on a juste un tracteur pour le maraîchage, un tout petit de 16 chevaux et un ancien gros tracteur de 50 chevaux du voisin pour faire les manutentions de grains sur la ferme.
Ouais, vous mutualisez aussi avec les voisins, quoi, en fait.
Non, c'était juste, il nous a vendu son tracteur.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais par contre, on mutualise avec d'autres fermes les couveuses pour les poussins, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Et nous, on leur fournit le grain. Mmh. On a des outils aussi, mais des outils qui sont manuels, du style une campagnole ou des choses comme ça qu'on utilise pour.
C'est quoi une campagnole?
C'est une grelinette sur roue.
je sais pas si ça nous renseigne plus une grelinette. Enfin, c'est quoi? C'est pour aérer la terre, c'est ça?
Ouais, c'est un outil avec des grandes griffes qui permet d'aérer le sol sur 1 mètre de large. Et du coup, quand on fait nos bandes, voilà. Ça soulage d'avoir des roues en plus pour pouvoir la tracter parce que c'est assez lourd comme outil.
Oui, j'imagine. Vous n'en êtes pas encore à utiliser la traction animale?
Du coup, moi j'ai un collègue qui loue une parcelle d'un demi-hectare chez moi qui fait des fleurs à couper qui vont marcher à côté de nous. Et lui, il a 2 ânes, il fait de la traction animale. Et donc l'autre fois, on a fait un peu de traction animale chez nous, mais on n'en est pas toujours à le faire, non. Ça reste quand même pour le moment plus rapide pour nous d'utiliser un micro-tracteur pour les quelques bandes qu'on a à faire. Et on comptait s'outiller de triangles d'attelage rapides pour atteler les outils sans devoir descendre du tracteur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui facilite le travail, qui augmente la vitesse de travail, mais qui diminue les problématiques de dos et de confort de travail. Ça les augmente, quoi.
Mmh. Alors donc on l'a vu se dessiner dans tout ce que vous nous avez déjà expliqué, mais en gros dans vos techniques, votre façon de travailler, qu'est-ce qui s'inspire de pratiques agricoles anciennes, on va dire?
Et ben du coup à la base on était beaucoup sur tout ce qui était race ancienne, race rustique, donc que ce soit pour les brebis, c'est des races qui peuvent être dehors toute l'année. Parce qu'ici, le temps en Bretagne, il est très clément pour avoir de l'air toute l'année, mais il y a une humidité aussi qui est des fois plus importante que dans d'autres régions. Donc il faut des bêtes qui tiennent bien l'humidité. Pareil pour les gallinacées, toutes les poules, les races de poules. On a pris de préférence toutes les races de poules qui sont des races rustiques ou bretonnes, ou normandes, ou anglaises. Il y a aussi tout ce qui est dans nos pratiques anciennes, je dirais, l'autonomie sur... qui est de faire nos greffes nous-mêmes de fruitiers, de faire nos boutures pour les haies, d'avoir des haies qui sont une aide aussi pour notre fonctionnement, qui nous permettent de faire nos manches d'outils, notre bois de chauffage à terme, et aussi de pouvoir aider des collègues qui font des tisanes et donc qui viennent prélever des fleurs pour faire de la vente de tisanes. C'est aussi de la biodiversité pour notre verger, mais c'est aussi la protection pour le vent, pour les animaux. On fait des plus petites parcelles aussi, avant, donc nous maximum nos parcelles elles font 1,5 hectare, 2 hectares. Si on pouvait revenir à des parcelles encore plus petites de 1 hectare à 1,5 hectare, des fois pour les vergers, vu qu'on est en bord de mer, ça les protégerait encore mieux, ça augmenterait la chaleur dessus, ça serait peut-être bien aussi. De faire la vente au marché aussi, ça reste une pratique ancienne, hein. tout ce qui est circuit court, et d'essayer que notre ferme reste à une échelle familiale et à deux aussi, pour nous, ça reste des pratiques anciennes, de faire nos poussins, de refaire nous-mêmes nos productions d'animaux pour être autonomes, qu'on ne rachète pas de l'extérieur. Voilà, je sais.
Ouais, ça fait beaucoup de savoir-faire déjà que, ouais. Que vous avez dû apprendre, hein, j'imagine.
Ouais. Alors ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'on est hyper bien fourni en formation ici dans le Finistère, que ce soit avec le CIVAM, le GAB, l'atelier paysan ou le mouvement d'agriculture biodynamique. C'est très très fourni en formation. Il y a aussi l'EPAB ici qui est présente sur CareLab.
Alors l'EPAB, voilà. C'est l'établissement de gestion de la bête d'Ornenay, c'est ça?
Enfin, ouais. C'est aussi des formations,
ah, oui.
Et des aides pour les paysans, pour notamment les bocagères et tout ce qui est bocage en endroit où il y a des problématiques d'algues vertes, notamment dans tout le bassin versant de d'Ornenay.
De la bête d'Ornenay, ouais, c'est ça. Et donc, pour ce qui est des pratiques ou des connaissances agronomiques plus contemporaines, voire pointues, voire innovantes, qu'est-ce que vous utilisez, par exemple?
Dans tout ce qui est couvert d'engrais verts, je pense qu'on fait de plus en plus de mélanges pour pouvoir répondre aux besoins de notre sol. Donc, on a fait des formations en tout ce qui était plantes bio-indicatrices. Qui étudie la nature de notre sol, qu'est-ce qui pousse à l'endroit sur notre sol, qu'est-ce que nous raconte notre couvert qui est là en place naturellement, et donc qu'est-ce qui serait idéal de faire? Est-ce que ce serait plus idéal de faire un pâturage là maintenant, court? Est-ce que c'est plus idéal d'aller faire un léger retournement de sol et de réimplanter tel type de semence ou tel autre type de semence pour ce qu'on a besoin? Donc, c'est-à-dire si on veut planter un verger à terme là, ou si on a plutôt envie de continuer une prairie ou de faire du maraîchage. Et donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de formation-là. Il y a tout ce qui est les formations de l'atelier paysan pour s'autonomiser sur les outils, que ce soit au niveau outils manuels ou outils tractés.
Il y a des nouveaux outils qui sont sortis, c'est ça?
Ouais. Et tout est en libre service sur le site, donc ça vaut la peine d'aller les voir. On peut les concevoir nous-mêmes, et en ayant suivi quelques formations de soudure, on peut les faire soi-même assez rapidement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a toutes les formations CIVAM, tout ce qui est bien-être aussi, mais aussi autonomie pour tout ce qui est fonctionnement de petites structures, essayer d'être le plus autonome possible et donc de dégager le plus de temps de travail aussi le moins de temps de travail pour avoir le plus de temps pour soi aussi, quoi. Ça, c'est assez important. J'en avais parlé dans la dernière fois, mais
ouais, tout à fait, ouais,
quelque chose qui soulage aussi et qui permet d'être plus à l'aise dans son travail, quoi.
Oui, ouais, je pense que
ce qui nous a aidé aussi beaucoup, c'est d'avoir des colocataires sur la ferme, parce que du coup ça rompt avec l'isolement agricole, et du coup c'est des gens qui sont dans le milieu culturel, social, et donc du coup qui nous font des apports aussi ici sur la ferme et nous permettent d'avoir d'autres choses, quoi. Mm-hmm. Dans notre habitat, en tout cas.
Ouais, tout à fait.
C'est d'être tout le temps dans le milieu paysan.
Très bien. Alors, Laura Lagache, ça, cet exemple-là de Gilles Jacob et sa compagne à Carlaz, donc c'est vraiment un exemple de ce qu'on appelle l'agriculture écologiquement performante. C'est le nom d'un projet dans lequel le CIVAM est entré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce projet?
Oui, bien sûr. D'abord, je te remercie, Gilles, parce que je suis super fière à chaque fois de bosser pour le CIVAM quand j'entends des témoignages comme ça. Et dans ce que tu as dit, on retrouve... notamment le fait que ce qu'on essaie de faire, c'est pas de faire l'éloge des pratiques anciennes, de faire l'éloge de l'ancien, mais de souligner qu'il y a eu une rupture de transmission sur ces pratiques-là, et souligner que la réappropriation de ces pratiques, mais avec le savoir actuel, un savoir contemporain, dont se nourrir de ces pratiques passées, tout en s'ancrant dans le présent. C'est quelque chose qui infuse tout ce que fait le CIVAM, quoi, et Gilles l'illustre particulièrement bien. Et quant au projet AEP, en fait, ce sont des projets donc d'agriculture écologiquement performante, donc qui sont soutenus financièrement par la région. Et ce projet en particulier, il s'appelle en fait valorisation des ressources par un atelier d'élevage supplémentaire. Donc ça fait partie en fait de de ce travail qui essaie de mettre en avant le savoir-faire paysan et qui contribue à construire d'autres référentiels de savoir agricole, des savoirs locaux qui vont reposer donc sur des logiques d'observation, de coopération avec le milieu. Et donc, par exemple, dans cet AEP, donc on fait office de structure observatoire, quoi, et de structure de répertoire des pratiques paysannes. Et une manière de valoriser une ressource par un petit atelier d'élevage secondaire, ce serait, par exemple, on fait de la transformation fromagère sur sa ferme. Donc, on a un moment dans l'étape de création du fromage, une phase d'égouttage. Il y a une étape de séparation du caillé et du lactosérum. Et le lactosérum, ce petit lait, il n'est pas facilement exploitable. C'est un sous-produit de transformation. Et dans cet AEP, le but, c'était de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces sous-produits-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces coproduits, de sous-produits de production ? Et en fait, ce petit lait, ce lactosérum, il peut être, dans une certaine mesure, avec l'ajout de céréales broyées, donné aux cochons. Et en fait, on a un éleveur qui qualifie le cochon de sous-produit du lait. Parce que pour lui, le cochon, il est là uniquement parce qu'il produit son fromage sur sa ferme et parce qu'il a des vaches, Donc il lie comme ça ses ateliers entre eux de manière assez logique,
Sauf qu'il y a toujours des réglementations, des nouveaux problèmes qui surgissent, et notamment récemment, qui ont trait à ce qu'on appelle la biosécurité. Enfin, on en a déjà parlé, mais vous allez nous réexpliquer. Et je crois que, par exemple, notamment, élever des quelques cochons sur paille, c'est plus si simple que ça, c'est ça, non ?
C'est plus évident de mettre en relation ces différents ateliers, ça c'est clair. L'éleveur dont je parlais, donc qui n'est pas Gilles, lui, en plus de donner son petit lait à ses cochons, il les utilise pour labourer des champs de pommes de terre déjà récoltés. Et il s'est rendu compte qu'en faisant ça, les cochons, en plus, mangeaient les restes de pommes de terre, ce qui permettait que les doryphores se développent moins. Les doryphores, c'est un espèce de petit insecte innuisible, Et en fait, en mettant ses cochons pour le labour d'un champ de pommes de terre récolté, il s'est aperçu que ça facilitait en fait le fait qu'il y ait moins de doryphores. Et donc ça, il ne peut plus le faire, effectivement, du fait de nouvelles normes environnementales et nouvelles normes sanitaires, parce qu'aujourd'hui, on demande le plan de biosécurité, il demande aux cochons d'être enfermés dans des enclos,
Parce que c'est quoi ? C'est pour éviter qu'ils attrapent des maladies extérieures ?
C'est pour éviter qu'ils soient en contact direct avec les sangliers et pour éviter que ne leur soit passée la grippe porcine. Donc techniquement, un enclos de cochons plein air, il doit être clôturé sur 1,50 m, électrifié sur l'avant de la clôture, sur l'arrière de la clôture. Et c'est à la charge de l'éleveur de vérifier que cette clôture est électrifiée tous les jours sur la totalité de son parcours. Parcours qui, bien souvent, n'est pas plat et est facile d'entretien. Donc c'est des contraintes supplémentaires. Et ça n'encourage pas les gens à s'installer, ça n'encourage pas les gens à poursuivre le port plein air. Il y a des gens en fait qui tout simplement arrêtent et passent en port sur paille bâtiment, et ça n'encourage pas la dynamique des fermes en polyculture polyélevage. Ça c'est clair. Le tout sanitaire qu'on voit apparaître aujourd'hui, ça profite pas du tout à ce type de ferme équilibrée,
Et qu'est-ce que vous pensez de ce tout sanitaire,
ce serait plutôt une question à poser aux paysans, je pense.
Je peux la poser à Gilles Jacob. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tout sanitaire, de ces contraintes?
Le gros problème, c'est que ça fait vraiment diminuer et perdre le sens du système de polyculture, en tout cas chez moi et chez pas mal d'éleveurs qui avant avaient des petits ateliers de poules, des petits ateliers de cochons. Moi, j'ai arrêté, par exemple, l'atelier de cochons. M'aidait à labourer les parcelles de maraîchage, m'aidait à liquider tous les déchets que j'avais sur la ferme ou que je valorisais pas. Les poules, pareil, elles pâturaient les vergers, elles pâturaient les serres. C'est des choses en fait qui sont nécessaires normalement dans le système dans lequel je suis, parce que c'est ce qui me permet de pas avoir de maladies dans mes fruitiers, c'est ce qui me permet de pas avoir d'insectes qui me font des problématiques sur les pommes notamment ou des choses comme ça. En fait, c'est des trucs où ça nous met vraiment des bâtons dans les roues, Alors que, en fait, ces problèmes sanitaires, en tout cas pour la volaille, sont principalement se développent principalement dans des grosses structures et dans des gros bâtiments. Où nous, avec des petits poulaillers de 70 pondeuses qu'on garde 3 ans et demi, bah, si on a un problème sur 3-4 pondeuses, bah, on le voit directement et on se pose la question de ce qui se passe, parce que c'est un revenu qu'on n'aura pas pendant les 3 ans. Alors que sur un poulailler à 10 000 poules, quelqu'un qui va perdre 5 à 20 poules, bah, il va pas trop s'en soucier parce que lui, il les garde 3-4 mois et puis après, il les envoie quelque part, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas du tout adapté au plein air et aux petites structures, la biosécurité. C'est adapté à des grosses, grosses structures et ils ont pas fait de normes d'échelle et ils aident pas, à ce qu'on puisse mettre des choses en place pour préserver des races aussi, parce que le risque, c'est que y ait des races rustiques qui disparaissent, parce que si elles sont obligées d'être en intérieur, ben, en fait, elles deviennent... c'est pas du tout leur milieu de vie. Donc
c'est ça, elles deviennent folles, quoi.
Oui.
Ouais, ouais.
Enfermer 70 pondeuses dans 12 mètres carrés, ben, c'est malsain, alors qu'elles avaient 1000 mètres carrés de parcours avant. Elles avaient l'herbe, elles avaient tout ça. Du coup, en fait, on nous demande de devenir des agro-industriels et de rentrer dans un schéma qui n'est pas le nôtre. Et je veux dire, on respecte ce type d'agriculture qui est peut-être nécessaire pour que le monde fonctionne et se nourrit maintenant, mais on n'adapte pas des aides pour que les paysans puissent rester en place et pour que l'installation de jeunes puisse rester en place. Parce qu'en 2026, il y a 46% des paysans qui disparaissent, mais on n'est pas du tout en train de les remettre en place. Là, la plupart des jeunes qu'on rencontre ou des vieux qui veulent s'installer, ils ne s'installent pas en élevage parce qu'ils ont peur de s'installer en élevage avec toutes les normes qui sont mises en place de biosécurité. Et donc, ils vont vers du maraîchage ou de la transformation en bocal. Mmh. Ils ne font pas du tout, plus du tout d'élevage. Et donc, le risque, bah, c'est qu'on se retrouve avec que des grosses structures et donc des poules ou des cochons de moins en moins rustiques. Donc, des races qui disparaissent. Donc, aussi, moi, je pense, une qualité qui va diminuer aussi.
Ah ouais, sûrement. Hein. D'accord. Bon, ben merci de nous avoir éclairé tous les deux, Gilles Jacob et puis Laura Lagache. Eh bien, on retrouvera le CIVAM du Finistère. Eh bien, ce sera le 7 avril, c'est-à-dire très bientôt. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.